Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La journée est fériée aujourd'hui en France et c'est souvent un moment de l'année où les familles se réunissent, se rapprochent de leurs aînés. C'est l'occasion de se retrouver, de passer du temps ensemble. Se retrouver avec des personnes âgées, c'est aussi prendre conscience de l'évolution de leur situation, de leurs besoins et parfois de leur état de dépendance. On parle alors de fin de vie comme pour atténuer, mettre à distance une réalité qui n'est pas agréable mais pourtant inéluctable. La vieillesse, la dépendance pose des questions morales et économiques aux individus et à la société qui ne sont pas faciles. La fin de vie est-elle bien appréhendée en France? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Annie de Vivi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du site hvillage.com, spécialisée dans les questions du vieillissement et responsable des formations Humanitude pour les EHPAD. On va en reparler. Auteur du livre « J'aide mes parents à vieillir debout », c'est aux éditions Chroniques Sociales. Et Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la radio France Inter et auteur du livre « Suzanne », c'est aux éditions Équateur, livre dans lequel vous racontez la vie de votre grand-mère et sa situation actuelle en maison de retraite. Quelques chiffres pour commencer cette discussion. Il y a aujourd'hui en France 1,3 million de personnes âgées dépendantes et ce chiffre grandit évidemment avec le vieillissement de la population. L'âge moyen de la dépendance c'est environ 83 ans aujourd'hui. Il existe 600 000 places de maison de retraite. L'État consacre aujourd'hui 24 milliards d'euros par an au financement public de la dépendance et les ménages plus de 7 milliards d'euros. Ça, ce sont des chiffres, ils sont importants mais ils sont un peu froids, un peu secs. Ce sont surtout des situations humaines et individuelles, parfois très difficiles. C'est un secteur qui se porte comment, globalement, Annie de Vivi?
C'est un secteur que l'on rebaptise secteur de la silver economy, merveilleux anglicisme, pour traduire une économie liée au vieillissement. Mais c'est un secteur aussi qui a du mal à se faire entendre et à se faire connaître de la population parce que c'est une réalité qu'on ne veut toujours pas vraiment voir, en fait.
Oui, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre à distance. Frédéric Pommier, vous vous êtes rendu compte quand vous avez écrit ce livre ?
Je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai reçu de très nombreux témoignages de gens qui me racontaient l'expérience qu'ils pouvaient avoir de leur côté, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leur mari, leur femme. Ces témoignages-là me disaient en effet la difficulté parfois rencontrée dans certains établissements, la difficulté pour leurs parents, pour leurs proches à se sentir bien dans ces établissements, se sentir bien traités aussi, et leur difficulté pour se faire entendre par les pouvoirs publics, même par les directeurs des maisons de retraite, des gens qui ont ressenti des pressions, dit qu'ils se plaignaient. On leur disait, si vous n'êtes pas content, reprenez votre mère, reprenez votre père, votre mari, votre épouse.
Oui, ça peut être très violent.
C'est extrêmement violent. Il y a beaucoup de détresse chez les familles des résidents de ces maisons de retraite. Et il y a beaucoup de détresse également à l'intérieur, la détresse de certains résidents, la détresse aussi des personnels soignants.
C'est un problème qui, on le disait, concerne beaucoup de monde, 1,3 million de personnes âgées et leurs familles par extension. Donc, en fait, à des degrés divers, on est tous concernés. On a tous quelqu'un qu'on connaît au premier ou au deuxième degré qui est en maison de retraite. Est-ce que l'État, est-ce que l'économie française, est-ce que la société française a pris la mesure de ce problème, Annie de Vivi?
Non, la société a encore du mal à le regarder. Elle ne sait pas comment faire, en fait, très concrètement. Nous, on estime qu'il y a deux sujets, qu'il y a deux raisons à cette réalité-là. La première raison, c'est ce qu'on a appelé maintenant l'âgisme. L'âgisme, c'est une forme de racisme anti-âge. Depuis très 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 longtemps, ça remonte aux Grecs, ça remonte depuis très 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 loin. La question du vieillissement est pas facile du tout à digérer. Et là, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit 4 à 5 générations les unes à côté des autres. Donc, comme on ne l'a pas vu arriver, comme on ne l'a pas anticipé, là, c'est un petit peu précipité aujourd'hui. Et donc, on bricole complètement l'accompagnement. On n'a pas suffisamment formé ni les professionnels, ni les aidants, ni l'environnement. Donc aujourd'hui, on est face à une réalité qui est dure, mais vraiment dure. Et l'autre problème, c'est l'argent qui est lié. C'est que comme on ne veut pas regarder cette réalité-là, comme on a vraiment du mal à faire avec...
On ne prévoit pas.
On ne prévoit pas, on n'anticipe pas. Et puis aussi, on n'a pas arbitré ce que c'est que de vivre 5 générations. On n'a pas arbitré ce que c'est que de vivre 100 ans. ça veut dire quand même qu'il y a des conséquences sur tous les plans, de l'habitat jusqu'à l'argent. Donc ces réalités-là, on ne les a pas vues en fait.
Frédéric Pommier, concrètement pour les personnes concernées, les personnes âgées, ça se traduit comment? Vous avez vu, vous, à travers l'exemple de votre grand-mère Suzanne, donc, des choses qui vous ont particulièrement choqué?
Oui, des choses qui l'ont d'abord choqué, elle. Elle, ce qui lui a déplu dans le premier établissement où elle a séjourné, c'était d'abord la qualité de la nourriture. Elle disait c'est absolument immangeable, même à des animaux, on ne donnerait pas des plats aussi mauvais.
Mais vous écrivez qu'elle expliquait qu'on ne reconnaît pas ce qu'il y a dans son assiette.
Elle dit, je ne sais pas si c'est de la viande ou du poisson, c'est une purée blanchâtre, je ne sais pas ce que je mange. Et du coup, elle a arrêté de manger. En quelques mois, elle a perdu près de 20 kilos. Alors comme elle a beaucoup d'humour, elle disait c'est formidable, il fallait que je m'insiste, mais 20 kilos tout de même. Il y a des personnes qui meurent de faim dans ces établissements-là, d'abord parce qu'ils arrêtent de manger, parce que ce n'est pas bon, et parfois parce qu'ils n'ont plus la force de lever le bras pour manger.
Ils ne sont pas capables de se nourrir eux-mêmes.
Et le personnel n'est pas assez nombreux pour aider ces personnes-là. Ce qui choquait ma grand-mère également, c'était l'état du bâtiment. Un volet qui reste fermé pendant plusieurs semaines, qui reste bloqué en position fermée. Sa chambre était donc dans le noir et la pièce n'est arrivée qu'au bout de plusieurs semaines. L'ascenseur tombe en panne. Certains personnels se comportaient avec elle de façon inappropriée, dirons-nous. Donc il y avait quelques personnes qui n'étaient pas à leur place.
Agressive, violente, c'est ce
humiliation, que... oui, parfois infantilisation. C'est-à-dire qu'il est arrivé qu'on l'appelle petite mamie. Elle disait, bah non, je suis pas leur petite mamie. Des personnes inattentives. Parce que débordée. Ensuite, on a vu de nombreux reportages aussi à la télé ces derniers mois qui ressemblent aux témoignages que je reçois. Des personnes qui se retrouvent la nuit seules dans un couloir, qu'on a oublié, qui se sont perdues. Des personnes qui n'étaient pas incontinentes avant d'arriver dans un établissement et qui le deviennent très rapidement parce que le personnel n'a pas le temps de les emmener aux toilettes. Donc on leur met des protections. Et puis au bout d'un moment, ben, on leur dit ben, on n'a que 3 protections par jour, donc ils restent dans des protections souillées. Des personnes qui dépérissent, en effet. Des personnes auxquelles on n'a plus le temps de parler. C'est surtout ça, la maltraitance aussi. C'est-à-dire que le personnel... Moi, je les mets pas en cause du tout. Au contraire, je les applaudis. Celles et ceux qui arrivent à faire avec les moyens qu'ils ont, ils disent eux-mêmes, de temps en temps, on est maltraitant, on le sait, on n'a pas le temps.
Ils se sont arrêtés en début d'année.
Évidemment,
ils ont
quel
fait
courage.
Grève.
Oui, année de vie, bah c'est...
Ils n'ont pas le temps de leur parler. Ils disent, je n'ai pas le temps, j'ai 25 minutes pour faire une toilette, habiller quelqu'un, lui donner son petit déjeuner, je n'ai même pas le temps de lui demander qui il était avant, quelle fut sa vie et s'il va bien.
C'est-à-dire que le lien social, si je peux dire ça comme ça, Annie de Vivi, bah, les personnes sont totalement déshumanisées en fait.
En fait, on se protège, enfin les professionnels se protègent de la dureté, de la violence de la situation et petit à petit ça peut se retourner contre eux. Au point que on est le secteur d'activité, le secteur d'activité des EHPAD notamment est un des secteurs les plus accidentogènes de France. C'est-à-dire qu'on a quand même explosé les chiffres du bâtiment. Donc on est quand même très fort dans notre milieu, puisque les salariés qui arrivent et qui arrivent à venir travailler, ben se cassent et ne viennent plus travailler. Donc on est vraiment là. On est face à un mur, face à un mur démographique et face à un mur de difficultés professionnelles. Donc, on va bien être obligé de bouger.
Alors, Frédéric Pommier, pour rajouter à la liste que vous faisiez, il y a aussi des problèmes d'hygiène. Une douche par semaine, c'est...
Ma grand-mère, c'était une douche par semaine, ce qui est très bien par rapport à ce qui peut se produire dans d'autres établissements où c'est une douche toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ou tous les mois. Dans ce qui me revient également, c'est des soins qui sont facturés, qui ne sont pas effectués. Donc on facture à certaines familles 10 séances de kinésithérapie. En fait, aucune n'a été effectuée. Alors ça, c'est la Sécu qui paye, c'est nous. Donc il y a quand même des gens aussi qui se font de l'argent sur cette vieillesse-là. Il y a des entreprises qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui facturent des chambres, un loyer très important. Et ces personnes-là, parfois, ont économisé toute leur vie. Et parfois ont vendu un appartement, une maison, tous leurs biens pour se payer cette fin de vie-là. C'est absolument insupportable. Et ce qui est insupportable, c'est que les pouvoirs publics ne semblent pas considérer que ce soit une urgence.
Alors, il y a manifestement, et vous le disiez tous les deux, un manque de personnel. Hein, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas? C'est un manque de moyens?
Il y a les deux. Il y a à la fois des arbitrages économiques qu'il va falloir refaire, puisque je vous dis qu'on est... on vit 5 générations les unes à côté des autres, que la durée, l'espérance de vie a grandi. Donc forcément, il y a des réarbitrages à faire complets sur les dotations qu'on doit se donner individuellement et collectivement pour vivre 100 ans. Mais aussi, on a un problème de formation et on a un problème de compétences parce que on ne sait pas faire d'accompagner autant de gens qui ont des difficultés. On ne sait pas, on a appris à gérer des pathologies, on a appris à gérer la maladie, mais on n'a pas appris à gérer l'accompagnement de polypathologies cumulées avec des situations familiales compliquées, avec des réalités sociales et psychologiques très dures. On est quand même face au handicap, à la fin de vie, à la démence. Il y a quoi de pire sur Terre? Franchement, on est quand même pas loin de situations de crise très dures. Donc il faut les aider, il faut aider le système.
Pas. Oui, alors, quand même dans les formations d'aide-soignants, il manque de candidats.
Il y a une difficulté à recruter parce que bah, vous le disiez,
il faut redynamiser tout le système.
C'est un métier très très dur. C'est un métier.
Mais c'est un métier extrêmement dur. C'est un métier qui n'est pas reconnu, qui est très mal payé,
en fait,
avec des horaires très durs.
Il n'est pas reconnu.
C'est-à-dire
que quand on travaille et quand on s'éclate à travailler, quand on arrive à trouver de la fierté, parce que bon, on va quand même arriver au moment où on va quand même parler de ce qui peut fonctionner. Nous, on peut vous dire. Enfin, moi, je suis sûre aujourd'hui, j'en suis certaine. On peut bien vieillir et on peut vieillir debout, y compris avec des maladies neurodégénératives. Maintenant, alors pendant des années. J'y ai cru et j'avais pas la preuve. Maintenant, j'en ai la preuve. Donc, je suis sûre qu'on peut changer les choses. Seulement, tout seul, on peut pas. Tout seul.
Il faut une prise de conscience collective.
Ah, bah oui. C'est-à-dire que les pauvres soignants, enfin, les soignants tout seuls, ça suffira pas. Les familles toutes seules dans leur coin, dans Mayenne ou je ne sais où, ça suffira pas. Enfin, il faut changer globalement la façon dont on regarde le vieillissement, dont on se regarde soi-même vieillir et dont on regarde le vieillissement. Et ça, on va pas y arriver tout seul.
Et le regard sur la mort également.
Ah ouais.
On parle de fin de vie,
mais il faut déjà la regarder parce que déjà,
la vie toujours.
Bah, par exemple, quand j'ai fait la présentation de cette émission, vous avez noté, évidemment, tous les deux, que je parlais de fin de vie et que j'ai pas prononcé ni écrit le mot mort, hein. On a du mal avec ça, Frédéric.
Non, mais dans ces établissements-là, c'est la mort. Mmh. Voilà. Mmh. Au bout de,
c'est la dernière
de la
partie.
Vie,
c'est la mort. C'est le dernier bout, là.
Et c'est l'une des difficultés quand même des soignants. On n'y pense pas non plus, mais certains, après 15 ans de métier dans ces établissements, peuvent dire, moi, j'en suis déjà à 300 morts. C'est pas tous les métiers qui ont cette fréquentation-là de la mort. Certains sont même amenés à faire des toilettes mortuaires, alors qu'ils ne sont pas formés pour cela et n'ont pas non plus de soutien psychologique après ces épreuves-là. Donc cette fréquentation de la mort, eux, ils la vivent au quotidien, les familles un petit peu moins évidemment, mais comment transformer ces lieux?
Et à côté de ça, j'ai grandi dans la maison de retraite où ma mère travaillait. Et quand je rentrais...
Ah, donc vous étiez
c'est pour ça que j'ai un problème. Hein, c'est que visiblement,
des solutions existent.
Ça a commencé petit et ça continuera.
Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite.
Non, quand j'étais petite. Mais en fait, je me souviens que je rentrais dans la maison et selon les éclats de rire qu'on entendait, on savait que quelqu'un était mort ou pas. C'est-à-dire que selon le niveau sonore des rires qui étaient émis, on savait qu'il y en avait qui étaient liés à la mort.
Forcé ou...
Eh oui, parce qu'il y avait besoin de se décharger, ou il y avait besoin d'évacuer, etc. Et régulièrement, enfin, on se trompait pas, les gamins. On était nombreux à être balancés dans la maison en attendant que nos mères aient fini de bosser. Et donc, on était gardés par les vieux de la maison. Et franchement, on la sentait, la vie, hein. On sentait ce qui se passait ou ce qui se passait pas.
Est-ce qu'on peut, et après, on va passer à ce qui se passe bien, on va essayer, hein, voilà. Mais parce que je voudrais qu'on en parle quand même, est-ce qu'on peut parler de maltraitance des personnes âgées? Il y a même un numéro spécial pour
3977.
Oui.
Et c'est hyper important. C'est hyper important de marteler qu'il existe. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est qu'il puisse aboutir. C'est-à-dire que quand les gens appellent le 3977, qu'ils soient beaucoup plus aidés et beaucoup plus armés pour pouvoir réagir et réagir vite. Parce que c'est bien gentil de monter des dossiers, mais la personne, elle va pas vivre encore 10, 15, 20 ans. Hein. Donc, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut réagir vite.
Frédéric Pommier,
la réponse à cela ne peut pas être simplement une visite de l'établissement par les services dédiés, services qui régulièrement préviennent à l'avance les établissements en disant « Attention, nous avons eu quelques plaintes, il y aurait des dysfonctionnements dans votre établissement, nous viendrons après-demain ». Évidemment, le surlendemain, le personnel est là en nombre, l'établissement est extrêmement propre et tout se passe
nickel,
bien.
Bien sûr, évidemment.
Ceci arrive fréquemment.
Oui, oui. Est-ce que le mouvement de grève dans les EHPAD, donc on parle des EHPAD depuis le début, ce sont les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, est-ce que le mouvement de grève dans les EHPAD qu'il y a eu au début de l'année et au printemps, c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui, au contraire, vous rassure tous les deux?
C'est
une
prise
de conscience, Annie Olivier?
Moi, ça me rassure, franchement. Je trouvais anormal, et vraiment scandaleux d'ailleurs, qu'ils ne réagissent pas. Qui ne s'arrêtent pas. Combien de fois j'arrive dans les établissements et je leur dis, mais face à cette situation-là, c'est niette. Vous n'avez pas à le faire. Vous n'avez pas à avoir des gestes qui risquent d'être violents ou qui risquent de vous heurter et puis de mettre à mal vos valeurs. Pourquoi? De quel droit? Pourquoi?
Que les soignants prennent la parole, c'est formidable. Qu'ils se mettent en grève, c'est très courageux. Ils sont soutenus par certains directeurs. Le problème, et par de plus en plus de familles, heureusement, le problème, c'est que certains soignants, quand ils parlent, sont mis à pied,
ils
parfois.
Payent.
Ils ont interdiction de parler.
Ce sont des lanceurs d'alerte. C'est la même chose, quoi.
C'est régulier dans
c'est
ces professions-là, dans
que
ces métiers-là.
Soit largement suivie.
Et nationale.
Ouais.
Il
parce
y a
que là, au moins, elle
mouvement.
A été couverte. Ouais.
Elle a été couverte, mais après, ils se sont tus un petit peu. Et je pense que le mouvement devrait renaître, ou tout du moins perdurer, s'étendre, et que ce soit pas un mouvement simplement de soignants, mais un mouvement de résidents, de familles, et que les politiques soient un peu plus nombreux à s'emparer de cette question en pensant à leurs grands-parents, pensant à leurs parents, pensant à eux-mêmes. Est-ce que c'est ce système-là qu'on veut quand on sera plus grand?
Il y a eu une inflexion
du
gouvernement.
Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, Annie de Vivier, les personnes?
Ce qui s'est passé, c'est que nous, on est des militants. Donc, comme des militants, on a interpellé les candidats à l'élection présidentielle, comme on a toujours interpellé les candidats à les élections présidentielles, pour leur rappeler un tout petit détail qui était que le vieillissement était une réalité, que le gouvernement et le président allaient devoir vivre et allaient devoir accompagner une société à 5 générations, et qu'il fallait peut-être qu'ils se posent 3-4 questions et qu'il ait des réponses. Et alors franchement, dans cette campagne-là, celle qu'on vient de vivre là en 2017, il y a eu quasiment rien. Il y a eu très peu de réflexions, peut-être un ou deux candidats sur la question du vieillissement. Et là, avec la grève de début d'année, là il y a eu une inflexion du gouvernement qui a dit tiens, va peut-être falloir quand même que je remonte le sujet un petit peu plus haut. Et il s'est obligé à lancer une loi qui doit proposer en 2019. Moi, franchement, je m'attends plus à aucun grand soir concernant le vieillissement. On en a trop vécu, depuis qu'on travaille, des promesses merveilleuses. Ce que j'espère au moins, c'est que le gouvernement s'appuie sur les initiatives positives pour que celles-là, elles émergent vraiment. Parce que celles-là, au moins, si elles peuvent s'aimer, ça sera déjà bien.
Le fait qu'on repeigne un petit peu ça en silver, silver économique, ce que vous en pensez, Frédéric Pommier, est-ce que ça peut être quelque chose de positif?
Il y a des choses positives, sans doute, à prendre partout. Après, repeindre un mot en anglais, je suis pas sûr que ça change.
C'est la mode depuis quelques mois.
C'est la mode. Voilà. Les chiffres sont à la mode également. Oui. Après, derrière, il y a quand même des histoires. Il y a des histoires de vie. Moi, ce que je trouve important, et c'est l'objet de ce livre, c'est simplement retracer la vie d'une femme pour redire que dans ces établissements-là, les gens n'ont pas toujours eu 80, 85, 90, 95 ans. Ils ont une vie. Et ils ont fabriqué aussi notre pays. Et ceux qui sont là dans ces EHPAD, ils ont été des enfants de la Première Guerre. Ils ont défendu la France lors de la Seconde. Et aujourd'hui, on leur donne de la nourriture pour chiens. Moi, je trouve ça insupportable. Alors qu'il y ait des actions positives, oui, il faut prendre partout dans la silver economy aussi. Ça permet de construire de nouvelles machines. Ça permet d'aider aussi le personnel soignant. Mais je ne comprends pas encore pourquoi cette loi de 2019 n'est pas une loi de 2018. Mmh. Pourquoi ce n'est pas une urgence nationale que de réfléchir au fait que nous sommes désormais 5 générations et que les vieux d'aujourd'hui, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents, et les vieux de demain, c'est nous.
Merci Frédéric Pommier, merci Annie de Vivi d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Benjamin Reyes. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr ainsi que sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez le débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.